Une bombe réparée avec les moyens du bord, une barbe de plusieurs jours et une fin de course où il faut oublier sa fatigue, ce vent qui ne vient pas et les derniers milles qui défilent au ralenti. Et puis surtout, Roland Jourdain le sait, il faut tenir, ne rien lâcher, car derrière lui, il y a un Jean Le Cam qui s'accroche, jamais battu.
En 2006, il remporte la route du Rhum, comme on l'entend dans cette archive de l'INA. Il la gagnera encore 4 ans plus tard. Celui qu'on surnomme Bilou en connaîtra d'autres. Cela fait presque 40 ans qu'il a pris la mer, mais le marin philosophe s'est lancé dans un autre défi de taille, rendre la navigation plus durable, rendre les bateaux plus écolos. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans La Story des Échos, j'ai parfois ouvert le micro à des explorateurs, à des hommes et des femmes investis dans la compréhension de notre planète. Je me souviens notamment de mes discussions passionnantes avec Jean-Louis Etienne, Bertrand Piccard, ou encore avec Roland Lehoucq ou Sébastien Carassou et leurs secrets du cosmos. Des épisodes à retrouver sur leséchos.fr. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un autre aventurier, un marin de Quimper, Roland Jourdain, moins pour parler de ses exploits que pour évoquer son amour de la mer et la nécessité de...
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
De mieux la protéger. Bonjour Roland Jourdain.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans le studio de La Story des Échos. Je voudrais commencer cet entretien par quelques vers de Baudelaire. Homme libre toujours, tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. En tant que marin, quel est votre rapport à la mer ?
Ça commence très fort. Quel est mon rapport à la mer ? Je crois que plus globalement, j'ai un rapport à l'environnement, aux grands espaces. J'ai un arbre généalogique familial qui ne montre que des paysans dans ma famille. Donc, je suis une aberration chromosomique dans la lignée. J'ai eu besoin de la mer à l'adolescence, comme on peut avoir besoin de partir loin, ailleurs, découvrir. Et je pense, dans le fond de tout ça, il y avait l'idée de franchir des lignes d'horizon. Et le grand espace bleu me le permettait. Et dès lors, donc ça fait quelques décennies maintenant, ça n'a jamais arrêté, mais il me faut toujours ma dose de bleu et ma dose de vert. Alors, peut-être mes origines bretonnes, puisque dans la langue bretonne, en fait, le bleu et le vert sont représentés par un seul mot, qui est le glaze, en fait, les couleurs variables. Donc j'ai besoin des grands espaces, qu'ils soient verts ou bleus.
Aujourd'hui, c'est un écosystème en danger, la mer, l'océan ?
Aujourd'hui, le vert et le bleu sont en danger. Enfin, non. Nous sommes en danger sur ce vert et ce bleu, c'est surtout ça. Hein. Je crois que le constat est là. On est trop nombreux. On a découvert un pétrole dont on s'est servi un peu n'importe comment. On a un peu cassé nos jouets, nous, l'espèce humaine. Donc, il est temps de reprendre le cap sur autre chose. Je crois que oui, il y a 1000 preuves là-dessus. Et l'océan n'est que le tapis sous lequel on cache la poussière. Hein. Si on était propre à terre, l'océan, il n'aurait pas de problème et il n'aurait pas besoin de nous. Son acidification, la montée des eaux, etc. Ça serait... Donc il va le gérer très bien, lui. C'est nous qu'on a écopé.
Comment est-ce que vous avez pris conscience de sa fragilité ? Qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur ?
C'était une petite musique qui est venue, alors pour moi, dans le courant des années 2000. Donc ça fait une bonne quinzaine d'années. Donc mon métier, mon activité principale, c'est la course au large. Et ça a été la quête de la vitesse en permanence. Et finalement, c'est un peu métaphorique de l'évolution de notre société. J'ai débuté, on va dire, professionnellement dans le début des années 80. On a une rupture technologique dans ces années-là, grâce ou à cause de la pétrochimie, on va dire, puisqu'on invente des matériaux qu'on commence à bien maîtriser, qui permettent de faire des bateaux plus légers, plus solides, plus rapides. Et donc, j'ai participé à cette aventure folle jusqu'à aujourd'hui, où Archimède a pris sa retraite, hein, les bateaux volent aujourd'hui. Mais, si on est très fort en bio-respiration, pour ressembler à la nageoire de la baleine pour nos gouvernails ou à l'aile de l'albatros pour nos voiles, ben on est nul en économie circulaire, nous les humains, on est nul pour laisser propre derrière nous. Et ça m'est apparu au fur et à mesure par le trafic maritime mondial qu'on voit exploser sur nos ordinateurs et souvent à côté de nos bateaux, puisque on a des moyens de détection, donc c'est énorme les autoroutes maritimes. Évidemment la pollution marine, mais plus finalement par le rythme en amont, le rythme à terre de préparation de nos bateaux et de l'effervescence de la démographie. Enfin, ça faisait trop, donc je me suis dit non, ça, je suis plus droit dans mes bottes si je me penche pas sur ces problèmes-là.
Et un jour, vous vous êtes dit, je vais faire le bilan carbone de mon activité?
Oui, c'est ça, ces questions ont commencé à arriver un peu trop souvent. Le sillage de mon bateau me commençait à me dire, mais tu sais combien tu coûtes à la planète, toi, jeune marin? Et on l'a fait effectivement, on a pris comme exemple un Vendée Globe, donc en l'occurrence le Vendée Globe 2008-2009 que j'avais couru. Et le scope était de se dire, bah, tiens, 3 ans d'activité d'une entreprise autour d'un projet Vendée Globe, c'est-à-dire la construction d'un bateau, la vie du sponsor ou des sponsors, la vie de l'équipe, ça coûte quoi? Alors c'était pour apprendre, hein, parce qu'on y découvre des chiffres, mais les chiffres ne sont là que pour être relativisés. Mais depuis, ça nous a servi de base, non seulement pour améliorer notre entreprise et ses activités, qui auraient pu être des améliorations si on faisait des petits pains au chocolat, des brosses à dents ou autres, puisqu'on a un tronc commun dans l'entreprise. On a un équipage, on a de l'énergie, on a des bâtiments, qu'on fasse de la course au large ou autre. Et plus particulièrement, puisque la seule chose, on va dire, en dehors de faire du bateau de compétition, j'avais des connaissances dans la construction et nos équipes, si on n'a pas de chantier naval, sont à même de très bien maîtriser ces composites à haut module, on s'est retourné vers la nature. En se disant, mais la nature sait très bien faire tenir des fibres et des structures depuis des millénaires. Avec notre intelligence du troisième millénaire, peut-on réapprivoiser tout ça? Et Kairos, donc notre entreprise, a fait le pas de côté. On a fait un virement de bord et notre bureau d'études spécialisé dans la vitesse des bateaux a changé de cap pour aller dans la performance environnementale et trouver des process et matériaux composites issus du monde végétal par les résines ou les fibres.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
The Wellerman, la reprise de Nathan Evans, qu'on pourrait traduire par l'homme bon, c'est le nom du bateau chargé de thé et de sucre. On va reparler tout à l'heure de votre propre bateau, mais au départ, il y a la création en 2013 d'un fonds de dotation Explore, créé avec votre compagne Sophie Verceletto. Quel est son objectif ?
Oui, mon épouse est associée et skipper à terre. A eu la bonne formule, on aidait les gens. À partir du moment où on a commencé à se poser un certain nombre de questions sur notre impact, le sens de tout ça et l'incongruité de se dire mais pourquoi repousser sans arrêt la limite de nos projets alors qu'on sait bien qu'on est sur une planète qui, elle, ne peut plus nous offrir, elle a dépassé ses limites, donc il n'y avait plus de sens dans tout ça. Donc le côté professionnel sur les biomatériaux a démarré. On s'est rapidement rendu compte que c'est difficile d'inventer des biomatériaux, c'est difficile de transformer le monde, et la technique aura énormément de mal, la technosolution, on n'y croit pas forcément, si on ne change pas nos comportements et nos façons de voir les choses. Alors, sur le bord de la route, on a rencontré les vrais aventuriers, les vrais explorateurs qui, s'ils n'étaient pas dans le domaine de la compétition, étaient engagés à 1000% pour trouver des solutions autour d'un futur désirable et du monde de demain.
Ce sont des start-up, hein?
Alors, ce sont des start-up. Et Sophie, dont la passion de tout ça et la somme de toutes ces compétences autour de nous, s'est dit, mais créons un fonds de dotation, créons un outil pour nous regrouper et pour ensemble être plus forts, pour montrer que cette biodiversité qui nous est essentiel dans la survie de l'espèce humaine. On peut trouver ensemble des solutions pour la protéger, pour la régénérer. Mais si en parallèle, on ne raconte pas un nouveau récit et on ne raconte pas qu'on peut changer nos comportements et qu'on peut consommer mieux et moins, ça n'aura pas de sens. Donc Explore représente un petit peu tout ça, une nouvelle façon de voir les choses.
Voilà, et vous avez créé un incubateur hein, qui va soutenir des projets justement de d'entreprises comme le Nomade des Mers, Plastic Odyssey, Under the Pole, par exemple. Hein, je vous invite à aller découvrir ça sur sur le site internet de votre organisation. Vous êtes, vous, un dompteur d'océan. Vous avez suivi les traces d'Éric Tabarly, un des pionniers de la course en ligne, à bord de voiliers toujours plus performants, vous le disiez, mais pas toujours très écolo. La performance prime souvent aussi dans le milieu de la voile, le poids dans la course au large. La performance peut-elle rimer avec l'écologie, la durabilité ?
Ben, je dirais que l'heure est revenue de remettre en question la notion de performance. Quelle performance veut-on pour l'avenir ? Je crois que ce qui nous importe à tous, c'est de pouvoir durer, c'est la base du développement durable. Or, aujourd'hui, rien n'est soutenable, y compris la compétition dans tous les sports, y compris la compétition dans la course au large. Il faut savoir, je pense, quand même poser le décor. On peut se trouver d'excellentes raisons de continuer de la recherche et développement dans certains domaines, mais pour rester dans le domaine des matériaux, comme ce qui nous réunit un petit peu là, c'est cette fibre de carbone qui est fantastique, qui fait nos bateaux. La course au large a été dans les premières activités à tester, a fait un peu le rôle de cobaye, puisque aujourd'hui l'aéronautique s'en sert régulièrement, mais nos cannes à pêche et nos cannes de golf, enfin 1000 objets du quotidien sont faits dans ce matériau-là. Je pense qu'il faut entre autres se reposer la question de l'essentiel, c'est-à-dire le pétrole. C'est magique, c'est magnifique. C'est vrai que c'est un carburant absolument incroyable. La pétrochimie et les matériaux de synthèse peuvent être potentiellement incroyables, mais on sait que ça n'est pas soutenable. Donc, il faut se dire, peut-on les garder pour des choses absolument indispensables ? Et n'est-il pas l'heure de se reposer la question sur l'ensemble du superficiel autour de tout ça ? On reparlera peut-être du bateau We Explore, mais il y a du carbone dedans. Donc, on peut pas tout changer en une minute. Mais néanmoins, on sait bien que la route générale dans laquelle on est tous embarqués n'est pas soutenable. Donc, des questions, il est l'heure de se les poser tous ensemble. Et je crois que ça n'est que le début de cette forme de libération de parole, entre guillemets, puisqu'on a tous été éduqués en appuyant sur le bouton, l'électricité vient, en tournant la clé, le moteur démarre. Enfin, mais on vit un rêve, on vit de la magie depuis à peine deux petits siècles. Donc, il est temps qu'on se réinvente un autre rêve.
Elmer Footbeat qui repart en tournée, ça rappellera des souvenirs à quelques copains. Le plastique, c'est peut-être fantastique, mais le lin, vous allez voir, c'est encore plus malin.
Le malin.
Il y a la parole et puis il y a les actes. À l'occasion du départ de la Route du Rhum en 2022, il y a eu 36 bateaux neufs construit pour cette course, mais pas le vôtre. Oui, Explore, que vous avez conçu avec votre entreprise Kairos, vous avez créé un département pour travailler sur de nouveaux matériaux à base de fibres de lin, une plante écolo, hein, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, ni de beaucoup d'engrais. Comment est-ce que vous avez eu cette idée un peu folle à l'air, vous le disiez, de la fibre de carbone, du polyester et de la mousse en PVC, de faire un bateau à base de fibres de lin ?
Alors pour diverses raisons, et l'histoire remonte justement à plus d'une douzaine d'années, lorsque, après le bilan carbone, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire et on a absolument besoin, chez Kairos et Explore, d'être près de la matière, d'être dans le concret, de faire des essais-erreurs. Et cette fibre végétale, en l'occurrence la fibre de lin, on a en France le meilleur lin du monde. Si on tisse ce lin d'une façon un peu particulière, mais pas très loin finalement du tissage de nos vêtements, on peut remplacer très avantageusement la fibre de verre, qui est très énergivore à construire. Donc ce lin français est le meilleur lin du monde. 80% de cette production est envoyée en Chine pour nous revenir sous forme de vêtements. Et dans les régions de l'Ouest, et moi je suis né à Quimper dans le Finistère, le lin et le chanvre, ces fibres naturelles, ont fait la fortune de territoires au travers des siècles. Encore une fois, avant que l'ère de la pétrochimie n'arrive. Donc tous ces éléments rassemblés, le fait d'avoir une fibre qui techniquement soit intéressante, dans laquelle on puisse incruster de la résine pour faire un produit composite, cette notion de territorialité et de relocalisation, pour nous c'était évident qu'il y avait un sens à travailler dans ce domaine-là, d'autant que les résines issues du monde végétal peuvent aussi pousser dans nos champs, mais aussi près de la côte, puisque dans les micro-algues, on a encore beaucoup de belles découvertes à faire. Donc cette conjonction d'éléments nous a fait partir dans cette direction-là. Il y a un avenir dans le plastique qui soit biosourcé, parce qu'on en a besoin, il faut que ça sorte de la nature, il faut que ça soit renouvelable, qu'il soit recyclable, et surtout aussi imaginer des solutions de fin de vie compostables. Aujourd'hui, on parle beaucoup de recyclage dans la pétrochimie. Tant mieux, peut-être que dans nos rêves les plus fous, on en recyclera une bonne partie, mais c'est un vrai rêve de dire que tout sera recyclable. Il faut absolument penser aux vraies fins de vie. Et les microplastiques commencent à peine à nous embêter, ça n'est pas fini.
Lors de cette route du Rhum, hein, vous avez terminé à la 52e place. Vous avez fait 10 jours de plus que le vainqueur Charles Caudrelier, mais qui avait un bateau beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. Vous étiez deuxième, je crois, des multicoques, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui prouve que la performance, hein, pour ce type de bateau est déjà là. Comment est-ce que vos projets sont accueillis par vos confrères de la course au large?
Alors pour revenir sur We Explore, effectivement, ce catamaran, alors c'est un ambassadeur en fait du chemin qu'on a parcouru professionnellement dans les biomatériaux avec notre entreprise Kairos.
Vous n'avez pas couru pour gagner?
Voilà, je voulais courir pour un autre type de performance, pour montrer que la réussite d'un projet, c'est le bonheur de tous les partenaires. Et la coopérative Terre de Lin, l'entreprise Bureau Vallée, le chantier Outre-mer chez qui on a construit le bateau. Voilà, un projet gagnant, c'est quand le tour de table est content. Donc là, la particularité du bateau, c'est qu'on n'avait jamais fait une si grande pièce en lin. C'est plus d'un hectare de lin qui sont sur ce bateau. Donc la preuve de concept, c'était dans le premier chapitre de la route du Rhum. Et effectivement, j'avais pas prévu d'être sur le podium, mais ça a bien marché. Comme quoi, on peut imaginer faire autrement, on peut imaginer son pas de côté et rester dans le match d'une forme de performance.
Et vos confrères, alors comment est-ce qu'ils accueillent ?
Dans le milieu bateau, je crois qu'on éveille une vraie forme de curiosité. Alors, notre politique depuis l'origine, avec Sophie et toute notre équipe chez Kairos, n'a jamais été dans la radicalité. Parce que pour nous, c'est pas productif. J'ai évolué dans un milieu qui fait des choses absolument incroyables. Aujourd'hui, les écuries de course au large, les architectes, les chantiers, enfin, on est arrivé à un summum de qualité qui est absolument incroyable. Mais ce qui manque dans tous les domaines de la société et ce qui nous manque depuis l'école primaire, c'est de connaître le vivant autour de nous, d'avoir un contre-pouvoir d'ingénierie environnementale pour envisager la différence. Et si on a cette connaissance environnementale dans tous les domaines de la société, c'est-à-dire dans le technique, dans le technologique, mais aussi dans le marketing, mais aussi dans le juridique, mais aussi de... Parce que il faudra faire des lois à un moment. Il y en a déjà qui arrivent, mais les lois sont comprises si sur le terrain on a compris les choses, si les bonnes informations viennent du terrain. Donc il faut absolument que cette connaissance soit diffusée. Alors dans le milieu bateau, ça fait 10 ans qu'on fait des réalisations nautiques de plus en plus grandes, et je crois que We Explore est bien accueilli parce que on ne critique personne, on amène un tombereau de questions et quelques solutions. Et on dit, bah, venez voir, venez visiter. Et on a beaucoup de visites et le bateau a énormément de succès sur sa partie matériaux, mais aussi sur sa partie philosophie de vie. We Explore, c'est un bateau de croisière. C'est l'Outre-mer 5X, sauf qu'on l'a fait un peu différemment en fibre de lin. Et il a très peu d'aménagements. Mais on réinvente aussi un confort qui, à mon avis, est prospectif parce qu'il va falloir faire mieux avec moins de toute manière.
Ce bateau, ça va être un bateau expérience, hein. Donc, on va voir un peu... le vieillissement de ce matériau avec le soleil, avec la mer, etc. Et il y a aussi après le côté en production chez nous, donc vraiment maîtriser l'infusion, le réseau pour pouvoir vraiment imbiber toute la fibre.
Agathe Calba, ingénieure du bureau d'études Outre-mer qui a travaillé sur le We Explore, interrogée par France 3 Occitanie, faire mieux avec moins. Roland Jourdain, est-ce que vos travaux intéressent aussi l'industrie de la plaisance ?
Oui, tout à fait. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'on a construit We Explore, parce qu'il est très difficile, et c'est un milieu que je connais peut-être trop, la course au large. Donc, je pense que on a semé des petites graines, et pour nous, il était important, effectivement, de nous confronter au monde industriel, et c'est d'ailleurs dans toutes les activités de Kairos, du bureau d'études, c'est proposer au monde industriel des solutions, parce qu'évidemment, pour passer à l'échelle, il faut s'attaquer au volume. Donc, le groupe Grand Large Yachting et Outre-mer a beaucoup apprécié la collaboration, on collabore toujours ensemble, et sur la partie matériaux, et justement sur cette partie... Quels seront les bateaux de demain? Et si on se pose la question de quels seront les bateaux de plaisance du nautisme de demain, c'est aussi se poser la question quelle sera la société de demain? Quels loisirs ou quelles activités je voudrais faire sur un bateau? À mon sens, un bateau, quel que soit le matériau dans lequel il est construit, doit être durable. Donc, que ce soit de la fibre de lin ou une autre fibre végétale, il faut faire la preuve de concept que c'est solide. Mais le monde change. Un bateau, c'est aussi la carcasse d'une maison, on va dire. C'est un volume qu'on peut habiter de façon différente. Et aujourd'hui, je pense que la notion de partage est intéressante. Donc, on pourra imaginer peut-être des bateaux modulables ou modulaires avec des univers de confort qui peuvent, un peu comme au Cercle Pindare, se pluguer, se dépluguer, se montrer. Je pense qu'on est encore un peu trop conservateur, peut-être, dans le monde du nautisme. Il y a beaucoup de choses à faire.
Est-ce que vous connaissez la société Innovation Yacht qui est en Vendée?
Alors, peut-être que vous me posez une colle, là.
Ah, voilà, tant mieux. Voilà, ils ont construit un bateau, un catamaran de presque 5 mètres, entièrement conçu en fibre volcanique. Voilà, un voilier qui sera industrialisé dans un nouveau chantier en cours de construction. Je vous invite à aller lire l'article d'Olivia Bassi dans les Éco-Régions. Vous avez aussi, en tant que compétiteur, un rôle de modèle aussi pour le grand public, pour les voiliers du dimanche?
Si la course au large a servi de tremplin, de modèle, alors en termes d'innovation technique, c'est vrai en partie, de modèle pour les plaisanciers et d'embarquer le plus grand nombre au large, par le récit, par l'aventure, etc. Je me demande si demain, c'est pas justement la plaisance qui va influer sur la course au large. Est-ce que ça a du sens, mais je pose vraiment sérieusement la question, de viser simplement la vitesse en termes de performance et d'objectifs dans un monde, encore une fois, qui a dépassé ses limites planétaires? Est-ce que l'histoire de la course au large ne doit pas se raccorder à un autre avenir d'histoire maritime au sens large, où on prend entièrement en considération ses limites planétaires, ses ressources? Le vent et l'eau de mer resteront gratuits, le reste ne le sera pas. Emprunter la route des grands mammifères marins, laisser propre derrière soi, avoir une activité complètement vertueuse de la terre jusqu'à la mer, ça représente plein de choses. Et dans le nautisme, parce que dans la société les choses changent, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc peut-être que l'inversion se fera et la pression des réseaux sociaux, des mouvements sociétaux, montreront à la course au large qu'il y a peut-être d'autres voies à prendre.
La course à voile, qui a aussi une image écologique, forcément, elle ne fonctionne pas avec du charbon ou de l'essence, mais c'est aussi une course qui coûte de plus en plus cher, avec des bateaux de plus en plus connectés, des sponsors souvent fidèles, mais pas si nombreux. La dimension financière est aussi importante. Ces nouveaux matériaux coûtent-ils plus cher?
Alors, on aurait besoin de 3 heures. Il faut pas dire de bêtises en résumant les choses. Si on parle de la fibre de lin, elle ne concurrencera jamais la fibre de carbone par ses caractéristiques mécaniques. Ça sera plus costaud, plus léger pour faire le carbone. Hein. Donc, sur We Explore, par exemple, le mât et 2 cloisons à l'intérieur du bateau qui relient les coques entre elles sont restées en carbone parce que on ne sait pas faire mieux aujourd'hui. Mais, voilà, à côté de ça, il y a 1,5 hectare de lin dans ce bateau, donc on peut faire différemment. Donc il faudra garder le carbone. Ça ne coûte pas plus cher que le carbone. On va dire que en caractéristiques mécaniques ou pour faire des bateaux de plaisance, on peut remplacer la fibre de verre par de la fibre de lin. Aujourd'hui, oui, c'est plus cher. On pourrait donner des échelles, ça dépend des tissus, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Donc oui, c'est d'abord plus cher parce qu'il n'y a pas de volume, parce qu'on n'est pas passer à l'échelle. On n'a que des preuves de concept. Donc, We Explore a servi à passer un step, c'est-à-dire que les tisseurs de matériaux comme la fibre de verre ou la fibre de carbone ont tissé la matière pour le bateau. Et c'était le lien qui manquait avec le monde du composite, parce que les chantiers navals n'allaient pas voir les agriculteurs directement. Donc voilà, on avance par étapes. Il y a des verrous techniques, encore quelques-uns, mais depuis 10 ans avec Kairos Environnement, et c'est à quoi nous ça explore aussi, on se rend compte que dans les services R&D, on a beaucoup plus finalement de services résistance au développement, la façon de voir les choses différemment. Et je parle de technique, mais je parle aussi de marketing, parce que oui, nos pratiques, il va falloir les changer. Oui, nos comportements, il va falloir les changer. C'est évident. Alors, ne restons pas bloqués sur nos réflexes d'avant, parce que ça n'existera plus. Donc, allons joyeusement vers de nouveaux horizons, en fait, qu'ils soient techniques, mais qu'ils soient aussi dans le loisir, dans le travail, dans la façon de regarder le vivant autour de nous. Et de toute façon, c'est ce qui nous amènera nos nouveaux modèles économiques. On n'a pas le choix, quoi.
Au large des côtes bretonnes, ces deux voiles coupent l'horizon. Plus grand qu'un bateau de plaisance, plus petit qu'un porte-conteneur, voici le premier cargo à voile moderne. Et ses 4 membres d'équipage s'apprêtent à traverser l'Atlantique, comme le faisaient les matelots du 19e siècle.
Sur mer, il n'y a pas que des géants pétroliers, porte-conteneurs ou vraquiers. On voit renaître aussi la marine à voile pour le transport de marchandises non périssables, à l'image du cargo grain de sel qui va chercher du cacao, comme on l'entend dans ce reportage de France 2 en 2020. Que pensez-vous de ces initiatives ?
Tout simplement, je trouve ça formidable. Et il était temps que ça revienne. Les entreprises comme Grain de Sel travaillent là-dessus depuis plusieurs années et d'une façon très volontariste, puisque l'analyse qu'ils ont faite, c'est que le fret maritime à la voile continuerait à rester plus onéreux. Et donc, il valait mieux intégrer dans le modèle économique la construction des bateaux. Donc, ils mettent à l'eau bientôt le 3e bateau, je crois, le 2e de 50 mètres de long a été mis dans l'eau. Et donc voilà, je pense qu'il y a un vrai avenir parce que le vent reste gratuit et le reste sera de plus en plus cher, c'est clair. Je pense qu'on a du retard aussi sur le cabotage maritime en général. Le long de nos côtes, on a abandonné tout ça trop facilement pour la voiture. Donc là aussi, on a un terreau favorable parce que la construction de bateaux, la maintenance du nautisme et du naval, on sait faire. On a des ports. Là aussi, il y a beaucoup de barrières administratives, donc il y a un peu de coup de faucille à mettre là-dedans si on veut regarder un peu les choses un peu plus en face. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Après, imaginez que tout le trafic maritime mondial sera à la voile. Bon, mais là aussi, il faut peut-être qu'on réfléchisse au fait que d'une façon ou d'une autre, le trafic maritime mondial devra diminuer. Parce que 90% de nos échanges qui traversent la planète, c'est pas non plus durable. Donc ce sont aussi des questions qui font mal, mais qu'il faudra mettre sur la table.
Merci Roland Jourdain, navigateur et créateur du fonds de dotation Explore. Et pour poursuivre l'aventure, je vous invite à découvrir Heureux qui comme Explore, 10 contes illustrés qui invitent à bord du We Explore avec une préface d'Isabelle Autissier. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Willigan à la réalisation, à Michel Varnet, chargé de production et d'édition, et merci aussi à la dynamique équipe qui gère les réseaux sociaux des Échos. N'oubliez pas de les suivre sur Insta, Facebook ou Twitter. Merci aussi à vous, les auditeurs, pour votre fidélité à la story depuis bientôt 5 ans. Et pour prolonger votre expérience et profiter de l'essentiel de l'actualité, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien dans la description ou en vous rendant sur abonnement.leséchos.fr/la story.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.